Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à tous et à toutes. La semaine dernière, Pierre Lescure, grand Manitou de l'industrie des médias française, ancien président de Canal+, et administrateur de Havas, une société du groupe Bolloré, rendait au gouvernement son rapport intitulé « Acte 2 de l'exception culturelle ». 80 mesures pour adapter l'industrie culturelle aux enjeux du numérique, 80 propositions forcément clivantes et qui, si elles sont mises en musique, auront un impact décisif sur la culture française et européenne des années à venir. Pour aborder ces questions, nous recevons Yves Rizel, président de Cobuzz et d'Abeille Musique. Bonjour Yves.
Bonjour.
Ainsi que Juan Branco, ancien collaborateur de campagne d'Aurélie Filippetti, militant alter Hadopi et auteur de l'ouvrage « Réponse à Hadopi » que nous aurons au téléphone tout à l'heure. Cette émission est en partenariat avec Rajmag, représenté ici par Julien Cadeau, rédacteur en chef adjoint Nouvelle Technologie et un des cofondateurs du Tumblr « Je voulais pas pirater ». Bonjour Julien.
Bonjour.
Univox pour le réseau Radio Campus avec Ghislain Chantepi. Bonjour Ghislain.
Bonjour Thibaut.
Et Thibaut de la Vigne, c'est moi. Allez, c'est parti.
Univox.
Je vous propose donc pour commencer d'écouter une revue de presse des commentaires de nos confrères journalistes suite à la publication du rapport. Et c'est un papier, de Martin Brodero.
Et on commence par l'erreur un peu bête qui vous pourrit tout un plan de communication. C'est Rue 89 qui la raconte. Lundi, Pierre Lescure arrive tout guilleré au ministère de la Culture. Il vient remettre à François Hollande et Aurélie Filippetti ses propositions sur l'exception culturelle française à l'ère numérique. Comme le bonhomme est un fin communicant, c'est sur deux tablettes tactiles qu'il a compilé son rapport. C'est cool, ça fait brancher et en plus, d'après Lescure, c'est du Made in France, des liseuses françaises de bonne qualité, explique-t-il au site IDBox. Problème, ce que le président de la République public a tenu entre ses mains, c'est une liseuse de la marque Koboglo, une entreprise canadienne rachetée en 2012 par le consortium japonais Rakuten. Un détail, d'accord, mais un détail qui la fout quand même un peu mal. Deux jours plus tard, mercredi, c'était Ravioli, mais c'était aussi le jour de sortie des Inrecuptibles et c'est peu dire que l'hebdomadaire n'est pas enthousiasmé par le rapport Lescure. Du vieux, avec du vieux, le titre est cinglant, voire presque méchant pour l'ex-président de Canal+. Il s'affiche en page 14 des Inroc qui parle de mesures poussives et peu innovantes. Un avis partagé par à peu près toute la presse hexagonale. Circuler, rien ne va changer, écrit sur lepoint.fr le journaliste spécialiste du numérique Guéric Poncet. Dans une note nommée « Hadopi est morte, vive Hadopi », il explique que la riposte graduée, cette suite de sanctions censées dissuader le téléchargement illégal, ne disparaîtra pas. Dommage, c'était une promesse de François Hollande. Guéric Poncet affirme aussi que ce rapport pérennise l'espionnage des activités des Français. Mais ce travail de Pierre Lescure ne fait pas que des mécontents. Le Figaro raconte ainsi l'histoire d'un Tumblr « Je voulais pas pirater ». Ce site recueille les témoignages des internautes sur les défauts de l'offre de téléchargement légal. Ses fondateurs ne s'attendaient absolument pas à se retrouver cités en page 59 du désormais célèbre rapport Lescure. Interrogé par le Figaro, Pascal, l'un des quatre créateurs du site, estime que M. Lescure résume très bien les trois piliers du mécontentement. La composition de l'offre et sa diversité, la politique tarifaire et l'accès technique. Autre heureux, les associations d'artistes, la société des auteurs-compositeurs dramatiques voient dans ce travail un socle solide et ambitieux pour l'exception culturelle 2.0. Au final, les principales critiques viennent de la Quadrature du Net, une association de défense des droits des citoyens sur Internet. La Croix, les Inrecuptibles, Libération, son porte-parole Jérémy Zimmermann est sur tous les fronts. Il dénonce un écran de fumée. Il regrette notamment que la sanction des internautes pirates, qui devait jusqu'à présent être validée par un juge, soit maintenant décidée arbitrairement par le CSA. Un conseil supérieur de l'audiovisuel qui prend de plus en plus de place sur le net et qui pourrait devenir à l'avenir le bras armé de l'État face aux méchants pirates de l'Internet.
Alors, Yves Rizel, vous venez d'écouter avec nous cette revue de presse réalisée par Martin de Radio Campus Paris. Vous avez été auditionné par la mission Lescure au titre de votre qualité de président d'Abeille Musique et de Cobuzz. Premier constat de notre part, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le rapport Lescure. Certains s'en félicitent et d'autres le rejettent. Quelle est déjà, en premier lieu, votre position à vous sur ce rapport?
D'abord, je ne l'ai pas analysé complètement. Chacun cherche son chat et moi j'ai été d'abord évidemment regarder ce qui me concernait, ce qui concernait surtout la musique. Bon, grosso modo, il me semble que d'abord c'est un travail assez bien fait, vraiment assez bien fait, assez profond, assez vraiment, c'est pas pour être désagréable, mais rien à voir avec certains autres rapports qui ont pu être précédemment proposés.
Le rapport Oliven, le rapport Zelnick.
Non, Oliven, c'était pas mal, mais dans son temps, le rapport Oliven était ok. Le rapport Zelnick, à tous égards, était une catastrophe selon moi. Bref, c'est un rapport qui est sérieusement fait et qui, à certains égards, se fout le doigt dans l'œil. Ou, bon, on ne sait pas ce qui, en matière de politique, on ne sait pas ce qui relève de l'habileté politique et de la sincérité dans un tel cas, et puis qui présente également des aspects, je pense, très très positifs. Voilà.
Donc votre avis est mitigé.
Mon avis est mitigé. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les foutaises de l'Adami en particulier, qui apparemment a réussi à faire son nid dans ce rapport, évidemment, je ne peux pas être pour. Ces gens ont la haine, mais vraiment la haine du producteur. Or, il faut bien comprendre que si on veut demain une musique de qualité, des productions, des créations, de nouveaux artistes, ils ne vont pas naître tout seuls, ils vont naître grâce à des producteurs qui prennent des risques, qui ont un métier. La production est un métier, on ne s'improvise pas producteur. Et l'autoproduction, écoutez, citez-moi les grands artistes qui en sortent au cours des 30-40 dernières années, j'en connais pas beaucoup.
Voilà. On rappelle que la Dami, ce sont les auteurs interprètes.
La Dami est une société de perception qui a été créée à l'époque par la loi Lang et qui rémunère les artistes solistes. Aspedidam, c'est pire, mais tiens, on n'en a pas trop entendu parler d'Aspedidam, ils sont tellement cramés. Voilà, donc il y a cet aspect-là qui est un peu désolant. Pourtant, je crois qu'on a passé beaucoup de temps tous à expliquer à la commission et qu'il y avait une erreur de perspective sur les histoires de rémunération des artistes, etc. Écoutez, on comprend pas. Hein, pour le reste, il y a des choses très intéressantes dans ce rapport, en particulier, je dirais, sur le financement des entreprises musicales qui en ont absolument besoin parce qu'on est toujours en train de traverser actuellement le désert. Et je dirais que toutes les bêtises qui étaient citées, en particulier là, dans votre revue de presse, par exemple l'article de Eric Poncet, les Jérémiades de Jérémy Zimmerman, on l'entend lui depuis des années. Tout ça, c'est très...
Pourquoi vous dites Jérémiades ?
Les Jérémiades, c'est très contre-productif. Parce que si vous voulez, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du passage de la problématique de la culture à travers le bouleversement de l'Internet. C'est ça qu'il s'agit. Quel est le problème ? Le problème, il s'agit de préserver quelque chose qui n'a rien à voir avec Internet, qui est la culture. Vous voyez ce que je veux dire ? La culture personnelle, la culture de service public, la culture, le rôle de l'État au regard de la culture. Vous savez que l'État, quand même, investit énormément d'argent dans la culture pour cultiver les gens, pour que les gens aient du loisir, pour que les gens deviennent plus savants, plus intelligents. Bon, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit de savoir si ces investissements culturels qui sont faits par l'État, par l'école, etc., et qui sont faits pour renforcer, je dirais, ce qu'on peut appeler l'industrie culturelle française, c'est-à-dire nous. Il s'agit de savoir si on a les outils pour défendre cette culture dans un moment où elle change, vous savez, comme le homard qui change de peau, elle change de peau et elle se trouve pendant toute une période en état de grande faiblesse. Il s'agit de savoir si oui ou non, on se donne les moyens de se protéger pendant ce changement et puis pour se refaire et puis pour sortir de du passage fort, ou alors si sous des fallacieux prétextes d'atteinte aux libertés, et là vous parliez, je ne sais pas si c'est vraiment Eric Poncet qui a écrit cette connerie de l'atteinte aux libertés, le flicage des Français, je veux dire, est-ce que vous pensez franchement que c'est Adopi qui est le premier flicker des Français, ou est-ce que ce n'est pas Apple, Google et les autres qui sont les grands flickers. Bon, alors j'ai juste terminé pour Jérémy Zimmerman. J'ai l'impression que cette quadrature du net, qui d'ailleurs est, je crois, l'outil de lobbying de certains intérêts, il faudrait se demander comment ils sont financés ou comment ils ne sont plus. J'ai l'impression que ça fait des années, ces gens, si vous voulez, font la politique du pire en nous expliquant qu'avant de se protéger, il faut tout ouvrir. Le résultat, si vous voulez, 4 ans plus tard, c'est quoi ? J'ai terminé. Le résultat, 4 ans plus tard, c'est un iTunes à 80%. Donc, si vous ne voulez pas être fliqué, ben vous êtes servi. C'est une industrie culturelle qui est submergée, n'est-ce pas, par des intérêts de grands trusts. Et la vérité, c'est que 4 ans plus tard, 5 ans, 10 ans plus tard, les majors aujourd'hui, ce n'est pas les malheureuses majors du disque, c'est les majors du web. Voilà, j'ai à peu près dit ce que je...
iTunes à 80%, c'est justement une des grandes questions que s'est posée le rapport Lescure et qui préconise aujourd'hui un élargissement de l'offre légale. On va écouter Madame la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui réagissait justement sur cette question lundi dernier lors de la remise du rapport par Pierre Lescure.
Il y a 3 volets, le développement de l'offre légale, la rémunération des créateurs et donc l'adaptation du droit d'auteur, et puis la lutte contre la contrefaçon, essentiellement la contrefaçon commerciale. Sur l'élargissement de l'offre légale, il faut par exemple que l'on s'intéresse et qu'on combatte les DRM, ces petits instruments techniques qui empêchent en fait que quand vous achetez une œuvre sur un support, vous puissiez l'écouter ou l'avoir sur un autre support. Il faut aussi qu'on travaille sur l'élargissement des catalogues. Ça se fait avec les professionnels pour que le plus grand nombre possible, par exemple, de films soient visibles par les citoyens. En matière musicale, cet élargissement des catalogues a permis qu'aujourd'hui, on voit une remontée très nette de la consommation, de l'achat de musique en ligne qui est en train, petit à petit, de compenser la baisse du marché.
Yves Rizel, je vous voyais tiquer un peu là sur...
Sur
le propos d'Aurélie Filippetti sur la sur les DRM notamment.
D'abord, le rapport Lescure ne parle pas que de musique. Hein, le rapport Lescure parle de VOD, etc. Et vous savez très très bien qu'en ce qui concerne le cinéma, et Lescure le pointe très très bien, je veux dire, c'est juste épouvantable. Effectivement, l'expérience consommateur est juste épouvantable aujourd'hui. Hein. Et il parle en particulier des trous, moi, que je trouve incompréhensibles. Hein. Si vous avez loupé un film de création, enfin une fiction cofinancée par la télé et que vous voulez la voir 2 mois plus tard, c'est foutu, il n'y a plus rien à voir. Alors, on ne comprend pas très bien quelle est l'intervention du service public pour lequel on paye une redevance là-dedans. Si 2 mois plus tard, la fiction machin chose, vous ne pouvez même plus la voir. Quoi. Vous êtes obligé d'attendre pour d'obscures raisons de passage en salle. C'est juste épouvantable. Alors là, il y a vraiment, c'est vrai, et il y a également un problème de DR. Sur le livre et sur les films qui se posent. On verra simplement si... moi, j'ai l'impression qu'au niveau du livre, si vous voulez, c'est une cause sacrée, le livre. Encore quoi, elle est moins sacrée aujourd'hui. Le livre
est en train de...
Elle reste très sacrée. Mais j'ai l'impression que ça se détruit. Rassurez-vous, ça se détruit à toute vitesse. Donc finalement, je me demande si c'était pas bien qu'elle soit sacrée. Il fut un temps où, quand on touchait un cheveu du livre, on avait des prix Nobel à l'Élysée. C'est même plus aujourd'hui d'actualité tout ça. Je pense que tout fout le camp, franchement. Bon, le livre, c'est vrai qu'il y a des solutions qui marchent bien. Dès lors, en effet, comme par exemple Kindle, etc. Dès lors qu'on reste dans l'environnement, propriétaire. Mais voilà, il y a un problème de DRM sur le livre. Alors, la VOD, c'est une catastrophe. Catalogue minuscule.
On rappelle, hein, Yves Rizel, le DRM, hein, ce que c'est précisément.
Le DRM, c'est donc la protection qui permet l'anticopie. Alors, je voudrais rappeler une chose, c'est qu'en musique, nous, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Hein. Il n'y a plus de DRM en musique. Voilà, il n'y a plus de DRM. Vous téléchargez et puis vous pouvez faire ce que vous voulez avec le fichier.
Bien entendu, parce que vous dites que ça protège l'anticopie, mais ça, c'est une théorie. En pratique, ça n'a jamais protégé quoi que ce soit, ça a plus contraint l'utilisateur. Parce que
on s'est
aperçu qu'en pratique, on arrivait déjà à faire sauter les DRM.
Ça fait très longtemps que l'industrie de la musique a fait sauter les DRM. Donc moi, je me rappelle, ça fait pratiquement 5 ans, il me semble. En janvier, c'était en mois de janvier, 4 ou 5 ans. Hein.
A plus. Mais ça existe encore dans l'industrie vidéo et c'est même le fondement de la VOD, le DRM, c'est-à-dire que...
Il y a un problème de catalogue, il y a un problème, effectivement, ce qui a été pointé, je crois, par le rapport Lescure, c'est le passage que je n'ai pas très bien lu, mais bon, c'est évident, c'est tellement évident, et c'est très intéressant. Si Lescure arrive à faire bouger les lignes hein, sur la VOD, les productions, etc., ça sera très important. Quant au livre, c'est quand même assez navrant qu'on puisse toujours pas lire Albert Camus en e-book, je crois, hein. C'est navrant. Et que chaque semaine, ils sortent des livres qui ne sont pas disponibles en e-book. On est prêt à payer. Hein. Moi, personnellement, j'achète beaucoup de e-book et je suis prêt à payer. J'ai pas de souci. Enfin, je veux dire, j'ai pas de souci. Je suis OK pour payer. Simplement, je ne trouve pas ce que je...
Le catalogue est un problème, mais également le prix. Sur le rapport Lescure, on voit très bien que les sondages qui ont été menés montrent que les utilisateurs d'e-book veulent des livres moins chers.
Parce qu'ils
ont l'impression que c'est dématérialisé, donc qu'il y a une...
C'est très cher. C'est 20% moins cher et dans certains cas, c'est le même
cher.
Prix. Et parfois même plus cher. J'ai acheté un livre, oui, absolument. Parfois plus cher. C'est absurde. Mais ils ont intérêt à se grouiller. Alors, le problème, vous vous rappelez ce qui s'est passé pour le livre. On a un réseau de libraires fantastique. On a un grand réseau de libraires qui a été protégé de toutes les manières possibles et imaginables. Là où les éditeurs sont très hypocrites, c'est que je pense qu'ils n'osent pas dire aux libraires que ça va être une grosse catastrophe, qu'on va vers la grosse catastrophe. Je crois que les libraires maintenant commencent à s'en rendre compte, tout le monde s'en rend compte. De toute façon, il n'y aura pas grand-chose à... Je suis désolé, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour sauver les libraires ? Il n'y a pas de compatibilité entre l'utilisation numérique et le libraire.
C'est exact. Et je pense aussi qu'il faut aller encore plus loin. Faut dire et dire que les libraires, si on écoute quelques groupes de libraires qui sont mis ensemble pour discuter sur la question, on s'aperçoit qu'ils mènent une résistance vaine contre le numérique, alors qu'ils devraient résister non pas à l'intérieur du numérique. Enfin, moi, ma position, je pense qu'il devrait penser déjà plus loin. Parce que sinon, c'est clair et net que c'est ce que vous disiez un peu plus tôt, c'est que les Apple et les Amazon sont sur le terrain. Et ils vont les bouffer. Il n'y a pas de...
Pour rigoler, si vous voulez, le jour où j'ai vu que chez Virgin, on vendait des tablettes Kindle, mais j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. C'est-à-dire que même symboliquement, il ne fallait pas le faire, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant de voir que Virgin vendait des tablettes...
La Fnac ne l'a pas fait, par exemple.
La Fnac n'avait pas fait.
La Fnac a brandé les tablettes Kobo qu'ils ont appelées les Kobo by Fnac.
Oui, et leur magasin est épouvantable. Leur plateforme de téléchargement DRMisée est épouvantable.
Yves Rizel, une autre grande mesure de ce rapport qui a été longuement commentée cette semaine, c'est la nouvelle taxe sur les appareils connectés. On va écouter tout de suite Pierre Lescure qui justement nous donnait réagissait sur cette mesure lundi 13 mai, toujours au ministère de la Culture.
Aujourd'hui, il y a une taxe sur les diffuseurs de télévision, les outils, la télévision, le poste qui est chez vous, etc. Mais demain, la télévision elle va être consommée, et d'ores et déjà, c'est vrai aujourd'hui, ce sera encore plus vrai demain avec la télé connectée, c'est consommé partout. C'est normal que tous ceux qui la diffusent y participent. Donc, on propose un taux de contribution très bas parce que l'assiette va être très large. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur la copie, nous, on dit, est-ce que la copie va perdurer ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas plus près de l'accès que de la copie ? On propose quelque chose qui peut être extrêmement léger aussi. Si je me trompe et que demain, il y a toujours autant de copies, notre système restera extrêmement léger, ce sera indolore pour le consommateur. Si en revanche, demain, il y a beaucoup plus d'accès que de copies, alors notre système trouvera son bien fondé. Mais on reste à coût constant, on reste à revenu constant, mais pérennisé pour la culture.
C'est un peu dangereux parce que l'histoire de la copie privée, c'est complexe. Mais c'est un peu dangereux parce que la copie privée actuellement est gérée par les professionnels. Au niveau, par exemple, tout ce qui concerne les aides, etc. Et là, ce qu'on nous explique, c'est qu'on va étatiser la copie privée. C'est très dangereux parce que vous savez que l'État peut décider un jour ou l'autre de supprimer une ligne budgétaire. Donc ça, c'est un gros, gros risque pour l'aide à la création. Je trouve que l'État doit se mêler de ce qui est au mieux son domaine. Pourquoi faut-il que l'État mette ses pattes là où c'est pas absolument nécessaire, d'autant plus qu'il lui arrive de faire des bêtises, hein.
Par exemple, si vous voulez, que sur le plan culturel, c'est une contribution, Yves Rizel, qui doit notamment servir, Pierre Lescure, à abonder un fonds pour l'innovation technologique
Il n'y a pas d'argent en plus dans ce qui est annoncé. Donc il y a simplement la confiscation du système entre les mains de l'État. Il n'y a pas d'argent en plus, d'accord ?
Est-ce qu'ils souhaitent remplacer la taxe sur la copie privée ou l'étendre ?
L'idée, ce qu'il raconte, c'est on va vers l'accès, etc. Il a raison, c'est certain. Il a absolument raison. Donc là, l'analyse est bonne, mais je dis, appelez-la autrement, puisqu'il n'y a plus de copie, on l'appellera taxe sur je ne sais pas trop quoi, ou on l'appellera...
Il parle de l'accès, effectivement. Il passe de passer de l'ère...
On est d'accord là-dessus, on va vers ça.
De la possession à l'ère de l'accès.
Mais ce que je dis, c'est que le système, l'organisation qui fait qu'aujourd'hui, il y a perception de cette taxe. Et ensuite, ce sont les organisations professionnelles et les sociétés de perception qui organisent la redistribution. C'est une chose, on est dans une sphère de professionnels. Et là, ce qui est un peu expliqué, c'est que ça va être, encore une fois, étatisé, et c'est très ennuyeux.
J'ai un gros problème personnellement aussi avec le principe de taxe sur les appareils connectés. C'est qu'on va supposer aussi également que tout consommateur et tout utilisateur d'appareils connectés consomme effectivement la télé publique. Ce qui n'est pas une relation de cause à effet.
En tant que citoyen, je suis tout à fait d'accord pour dire avec vous que je ne comprends plus pourquoi je paye une taxe pour la télé publique compte tenu de l'état déliquescent de ces programmes. Là, je suis d'accord. Maintenant, voilà, je crois que On ne va pas chercher midi à 14h quand même. L'essentiel des gens qui ont les appareils connectés consomment de la musique. Et ça,
peut-être, peut-être, mais de la vidéo, j'ai un doute. Le réseau n'est pas encore
oui.
capable d'afficher...
Enfin, tout le monde... Bon, enfin, il y a des contenus qui sont sur YouTube qui, comme vous savez, sont pris sans aucun droit, etc. Il y a des tas de... Bon, enfin, ça, je pense qu'il ne faut pas être quand même trop...
Mais sur cette question de l'ère de l'accès, Yves Rizel, vous déclariez lors de votre audition hein, par la mission Liscure que le modèle du téléchargement développé par iTunes a fait ses preuves et permet de rémunérer le producteur. On est moins là dans l'ère de l'accès que l'ère, pour le coup, de la possession du fichier et de l'œuvre.
Comme je vous le disais tout à l'heure... Quand il y a un changement de monde, je pense que là, l'État est dans son rôle quand il accompagne une industrie, des industries, pour passer un cap. Bon. Souvent, au cours des dernières années, les politiques ont cru vouloir statuer, en quelque sorte, par exemple, sur l'avenir de la musique. Ça sera comme si. On entendait déjà, il y a 5 ans, des gens nous expliquer l'avenir, il est au streaming. Il y en a même qui nous racontaient l'avenir, il est au streaming gratuit, on ne payera plus jamais la musique. Vous voyez comme ils se sont bien foutu le doigt dans l'œil. Ça manque d'un petit peu d'analyse politique parce qu'on sait que dans une société marchande, on paye toujours les choses. Excusez-moi, mais bon, voilà. Bon, bref. Donc, ce que je dis, ça concerne, c'est un point technique, c'est-à-dire, enfin, c'est un point d'usage. Évidemment, l'avenir, il va être à l'accès et donc à l'abonnement, plus ou moins coûteux d'ailleurs, pour la majorité des utilisateurs. Maintenant, il reste que dans le cas spécifique de la musique. Et parce que les producteurs ont besoin de revenus, et les producteurs sont les propriétaires de leur travail, et ont le droit, donc, il me semble quand même, de le vendre à qui ils veulent et au prix qu'ils veulent.
Mais c'est là toute la question, Yves Rizel. Excusez-moi de vous couper, mais on a vraiment l'impression que toute cette question de la rémunération et puis d'Adopi, du coup, en mesure de protection, c'est la question de la clé de partage des recettes, je prends la formule de Pierre Lescure, qui est en jeu, c'est-à-dire de savoir qui gagne quoi pour avoir fait quoi. Et effectivement, le producteur, auteur et acheteur se disputent finalement toujours cette question du gâteau.
C'est là que je dis que d'une certaine manière, ils se mêlent. Et c'est un problème, une mauvaise réponse à un problème qui ne se pose pas. Parlons, et vous avez des gens qui aujourd'hui produisent la musique. Quand je dis produisent, je mets les artistes, puisque les artistes sont payés à ce jour en grande partie par leurs producteurs. Et qu'un artiste autoproduit, je vous le rappelle, est un producteur à son compte. Bon. Donc cette personne, ces gens, producteurs, pour faire court, font un produit et entendent gagner leur vie avec. Ce qui est, je pense, le lot commun de tout le monde quand on travaille. Bon. Il convient que la loi permette de respecter cela. De même qu'on ne permet pas au boulanger en face là d'être ce matin dévalisé gratuitement.
Bon, ça c'est le rôle de l'État. Son prix.
Il a le droit de fixer son prix. Mmh. C'est le rôle de l'État. S'il fixe mal son prix, s'il fouille des DRM, je dis n'importe quoi, ben, ça marche pas. On l'a déjà vu par le passé. On en a pris les coups sur les doigts fumants. Voilà. Donc ne mélangeons pas la volonté. Il faut pas que l'État se mêle de ce qui plus loin de ce... que l'État nous protège, que l'État permette à une filière de se refaire une santé par des dispositifs financiers qui lui permettent de se refinancer. Et je ne parle pas de subventions, je parle de l'accès au crédit, etc. Ça, c'est très bien, c'est vraiment, et c'est ce qu'il y a bien dans le rapport Lescure, c'est très positif. Mais que ce rapport vienne sous l'influence sur laquelle il faudrait beaucoup dire, il faudrait en parler à fond, il faudrait se demander les mécanismes de l'ADAMI et pourquoi ils ont cette position qui, à certains égards, est ridicule, mais qui sont des positions d'organisation interne, en fait. Bon, ça, je pense que là, le rapport s'aventure sur des terrains qui ne sont pas très malins.
Il y avait une alternative qui a été écartée par le rapport Lescure à ce négoce traditionnel sur les biens culturels. C'était aussi la licence globale. On sait que vous y êtes opposé.
Non, ce n'est pas seulement que c'est opposé, c'est que nous serions comme ça un village gaulois unique au monde, alors que c'est... je crois que c'est anticonstitutionnel. Et voilà, donc c'est absurde, puisque ça serait vouloir absolument faire une sorte d'exception française qui tiendra
mais
pas.
Mais pourquoi absurde?
C'est un peu ce qui a été fait. Enfin,
je pourrais vous expliquer, mais par le passé, j'ai déjà expliqué pourquoi. D'abord, la licence globale, parce que la licence globale est quelque chose qui sera destructeur vis-à-vis des répertoires rares, des répertoires en développement, des répertoires culturels. J'ai même oublié mes arguments, mais je les ai expliqués par le passé, je crois.
c'est vraiment un débat totalement dépassé. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est plongé dans un bain global et on doit, encore une fois, se préoccuper de savoir s'il est possible de reconstruire un dynamisme de la distribution des produits et des biens culturels français, sachant que pour un groupe, je dis toujours la même chose, pour un groupe de rock d'Aubervilliers, s'il doit passer par Cupertino pour accéder, pour que son fan de Bécon-les-Bruyères puisse voir une bannière sur le site iTunes, eh bien, croyez-moi, c'est beaucoup moins bien que même par le passé quand on allait à la Fnac et où on pouvait, une fois qu'on avait référencé le produit, faire des guidi-guili au vendeur Fnac pour essayer qu'il vous foute en... Vous comprenez le problème ? Ça, c'est vraiment... Mais c'est essentiel.
J'ai du mal à avoir le rapport avec la licence globale, en fait.
Mais si, parce que... Non, c'est pas le rapport avec la licence globale. C'est ça qui est important. Il n'y a pas de rapport. Je dis, c'est ça le point important. Et donc, le point, c'est qu'il y ait une distribution de musique et de produits culturels qui aient les pieds en France et non pas que, comme regardez la musique, c'est foutu déjà la musique, il va falloir faire un chemin en arrière.
Oui, très bien, enfin,
voilà. Alors vous allez avoir les mêmes choses pour le livre. Le livre, c'est en train d'être foutu, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas une seule plateforme, mis à part deux sites, mais la pauvre, comment peut. Qui fait du e-book correct en France. Le cinéma, la VOD, ça va être envahi par... C'est foutu.
Donc, très bien, mais alors vous parlez d'exception culturelle.
Mais de l'exception culturelle par renforcement. Non pas par exception, par vision fanatique et utopique et idiote, mais par des structures commerciales françaises bien les pieds dans la glaise qui vont donner de la force à la distribution locale, qui vont même éventuellement, comme ça s'est passé dans le cinéma, capter de la valeur sur les blockbusters. Dans le cinéma, c'est ce qui se passe. Et ça a été remis dans la production française. Vous voyez bien que ça a bien fonctionné. Donc c'est bien cette idée-là, c'est-à-dire cette idée selon laquelle il nous faut... Il n'y a pas de liberté de la culture, il n'y a pas de liberté du savoir sans liberté de la distribution. Et ça, si vous voulez, il faut arrêter de se tirer des balles dans le pied comme Jeremy Zimmerman et ses copains depuis des années. Il faut bien comprendre qu'il faut une distribution des produits culturels localisée, et pas seulement en France, en Europe et dans chaque pays, qui parle les langages. Il y a des enjeux également par rapport aux langues. Vous avez vu qu'en musique... Tout est en anglais désormais. Enfin voilà, vous avez vu à quel point iTunes a rien fait pour faire progresser et la qualité de son et la qualité de documentation qui est vendue et vend à 9,99 des machins qui sont ultra compressés. Vous n'avez aucun détail sur les œuvres ou les interprètes sont même pas renseignés dans les métadonnées.
Eh bien, on va prendre quelques minutes de pause pour respirer un petit peu. On va écouter un morceau qui s'appelle Monsieur Adopi. C'est de circonstance, je crois.
C'est oui. Mr. Adopi, help me, Mr. Adopi, stand up for my rights.
Monsieur Adopi par Vic Knet qu'on vient d'écouter à l'instant et Juan Branco nous a rejoint au téléphone, je ne sais pas si on l'entend.
Oui, bonjour.
Vous êtes ancien collaborateur de la campagne d'Aurélie Filippiti, militant Alter Adopi et auteur de l'ouvrage Réponse à Adopi paru en mai 2011. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes également l'auteur d'une tribune publiée sur le site des Inrecuptibles lundi dernier, une tribune intitulée « Une opération de blanchiment dont personne n'est dupe ». Et donc vous avez réagi naturellement à la publication de ce rapport en le critiquant fermement, en dénonçant effectivement ce que vous estimez être une opération de blanchiment.
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a eu une tentative, en fait, enfin, je pense, je le sais, il y a eu une tentative d'essayer de ne pas trop se délire par rapport aux promesses de campagne, par rapport à ce qui avait été dit les années précédentes à la fois de la part du Parti Socialiste et des différents membres du gouvernement, que ce soit Jean-Marc Ayrault ou Aurélie Filippetti, qui s'étaient beaucoup impliqués personnellement pour lutter contre le dispositif et promettre une alternative qui soit bien différente. Et là, il y a eu une rétrocession très importante, et l'idée, c'était de trouver une formule qui permette de sauvegarder les apparences sans sur le fond bouger, et c'est ce qu'ils ont tenté de faire, et je pense que ça n'a pas bien marché, et que personne n'y a cru, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec un dispositif qui est très similaire à la Hadopi, voire plus efficace, dans le sens où la nouvelle instance au sein du CSA sera capable de condamner beaucoup plus facilement, enfin de sanctionner beaucoup plus facilement, pardon, ce ne sera pas des condamnations, les personnes qui téléchargeront ou partageront des fichiers musicaux ou cinématographiques. Et donc à partir de là, on n'est pas du tout dans ce qui avait été promis, notamment avec ce qu'ils appelaient l'acte 2, l'exception culturelle, qui était une expression que j'avais inventée en fait pendant la campagne, et qui était vraiment d'un changement de paradigme et d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait, en s'appuyant sur le numérique et les nouvelles industries technologique pour financer la culture comme on l'avait fait en s'appuyant sur la télévision dans les années 80 pour le cinéma, et donc à partir de là repenser les modes de financement dans leur ensemble. Là, ouais, on n'est pas du tout dans cette perspective, et en plus on ne crée aucun droit nouveau pour les publics, et on continue sur un modèle qui à l'évidence ne fonctionne pas, en particulier dans le cinéma, qui est celui de la consommation VOD, qui stagne, alors qu'on lui promettait une croissance à deux chiffres, voire à trois chiffres, il y a quelques années.
Voilà, on rappelle que vous étiez désolidarisé dès 2012, hein, sur cette question d'Aurélie Filippetti, pour laquelle vous aviez fait le conseil, hein, sur ces questions pendant la campagne. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que cette position du Parti Socialiste a changé à un moment donné de ce qu'elle défendait les années précédentes?
Écoutez, moi je pense qu'il y a une série de facteurs à commencer, et je pense que c'est la plus importante, parce que c'est peut-être aussi la moins visible immédiatement, et surtout quand moi je l'ai vu très facilement parce que j'ai travaillé avec eux, et avec Aurélie, et avec François Hollande aussi. C'est une méconnaissance assez forte du milieu de la culture, qui en fait entraîne une vision sans relief du monde de la culture, c'est-à-dire qu'ils ne voient que ceux qui vont vers eux. Et ceux qui vont vers eux, c'est quelques lobbies et quelques organisations qui payent des lobbyistes elles-mêmes, qui sont plus ou moins légitimes, qui vont du SNEP à la SACD en passant par la SACM. Toute une série en fait d'organisations comme ça représentatives, qui purulent en particulier dans le cinéma, l'art, le SPI, etc. Et qui, encore une fois, je ne veux pas critiquer le principe du fait qu'il y ait des organisations représentatives, mais ils ne se rendent pas compte en fait de quel est le véritable poids de chacune de ces organisations. Et donc à partir de là, ils se laissent entraîner par ceux qui parlent le plus fort, d'une certaine façon. Et donc, alors qu'il y a une multiplicité de points de vue dans le milieu de la culture sur ces questions, et beaucoup de difficultés qu'ils n'arrivent pas à voir. Et donc, comme ils ont une méconnaissance très forte et à la fois un respect important, ils sont tétanisés par rapport à une surenchère qui, pour le coup, est le propre des quelques lobbyistes les plus renommés, comme Pascal Rogard, pour qui s'intéresse à ces sujets, et qui vont être dans une surenchère parce qu'ils connaissent très bien le mode de fonctionnement des politiques dans les campagnes présidentielles, et qui vont, par des tribunes, par toute une série de mesures, tenter de faire pression au maximum pour obtenir tout ce qu'ils peuvent, quitte à ensuite, même si finalement ils auraient peut-être gagné sur le moyen et long terme, à plutôt envisager des transformations plus forte. Et en fait, comme on est dans le ministère de la culture en France depuis 10 ans est sur un modèle de co-gestion avec le milieu de la culture, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout à l'initiative, il n'y a aucune force d'impulsion. Et nous, l'idée, c'était de changer ça et de proposer en fait des réformes ambitieuses qui permettent de compenser les nombreuses fragilités du modèle actuel. Et on a complètement abandonné cette possibilité parce que tout simplement, voilà, il y avait une vraie fragilité politique et une vraie difficulté à saisir la complexité du milieu.
Alors, Yves Rizel, sur ce constat sévère, hein, de Juan Branco.
Oui, bonjour monsieur. Sur le changement de paradigme, Est-ce que vous pensez que la France... Je vous pose juste 3-4 points comme ça. Sur le changement de paradigme, est-ce que vous pensez que la France a les moyens, sérieusement, de toute seule et contre le monde entier et déjà la manière dont nous avons été envahis par les majors du web, de changer le paradigme? Et est-ce que vous pensez que c'est simplement réaliste? Pour ça, ma première question. Vous dites qu'il y a... voilà. Ensuite, vous parlez des organisations, je suis d'accord, hein, les machins, les organisations, etc. Je suis d'accord également sur tout ce qui est absolument rétrograde et passéiste et surtout conservateur au sens propre dans le milieu de la culture et tous les conforts, etc. Je suis d'accord. Mais maintenant, si là, on parle... Qui est-ce qui, mis à part, si vous mettez toutes ces organisations bout à bout, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas... Est-ce qu'il y a des gens importants qui ne sont pas représentés par ces organisations? Autrement dit, vous me répondrez ensuite, mais qui est-ce qui n'est pas représenté par toutes ces organisations une fois que vous les avez mis bout à bout? Et enfin, est-ce que, oui ou non, ça fait partie de votre du fondement, si vous voulez, de votre opinion et de ce que vous préconisez ou de ce que vous préconisiez, le fait qu'il y a une industrie culturelle en France, il y a une pensée française, il y a une culture française, que ça a fait l'objet d'investissements absolument considérables depuis des années par le ministère de la Culture et l'Éducation nationale, que ça fait partie
C'est pas forcément ça, pardon, qui est mis en cause.
Non, je veux poser la question, parce que c'est la même question pour Zimmermann, si vous voulez. C'est est-ce que, oui ou non, il y a quelque chose à défendre, il y a quelque chose auquel on croit? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel on croit? Et est-ce qu'il n'est pas, et quand vous possédez quelque chose et que vous êtes dans une période de changement, est-ce que c'est le moment, comme vous dites, de changer de paradigme pour finalement laisser envahir tout ce bordel? Ou est-ce que dans ces moments-là, il faut pas déjà défendre ce qu'on a avant de vouloir mettre des petites fleurs partout?
Bah, moi, sur cette dernière question, je pense que le rôle des pouvoirs publics est d'accompagner la transition et d'aider les industries à transformer leur modèle, parce que leur modèle, comme c'est normal, face à une révolution technologique telle que le numérique et Internet, se révèle de moins en moins adapté et pose de plus en plus de problèmes. On le voit dans le cinéma, par exemple, avec toute la question du préfinancement, etc. On voit qu'il y a des difficultés qui se posent et qui viennent s'ajouter à des difficultés qui existaient déjà, qui étaient une trop forte dépendance à la publicité, aux chaînes de télévision, etc. Donc moi, je pense que les pouvoirs publics, s'ils se posent de façon trop conservatrice, comme c'est le cas en ce moment, même si le rapport Lescure, sur quelques points, essaie d'aménager des voies vers une position un peu plus offensive, mais je pense qu'elles seront de toute façon très vite abandonnées parce qu'elles ne prennent la forme que de recommandations, de concertations, etc.
Il y a des choses, hein, Rod Branco, quand même, qui vont dans votre sens. Hein. Moi, ce que j'ai pu lire dans votre tribune, vous parlez d'intégrer une chronologie des médias rénovés, de réhabiliter le CSA en lui donnant de nouvelles prérogatives en fait, de sanctions. Oui, on a le sentiment que sur ces points-là, en tout cas, le rapport Lescure peut presque aller dans votre sens.
Oui, avec un problème, c'est que ça reste de l'ordre de la recommandation de la concertation. Et par exemple, sur Chronologie Média, ça fait 2 ans que les négociations sont bloquées par un désaccord entre FACD et Canal+, on rentre dans du détail. Mais c'est pour vous dire que les pistes les plus originales et peut-être les plus créatives du rapport Lescure sont celles qui, à mon avis, seront le plus rapidement abandonnées et qui, elles-mêmes, dans leur rédaction, prennent la forme de recommandations assez fragiles. Mais pour venir aux questions... que vous m'avez posé, donc sur la dernière, évidemment, et si justement on s'est engagé dans un travail de réflexion et qu'on a essayé de concevoir justement un acte 2 de l'exception culturelle avant la concertation de Pierre Lescure, c'était justement parce qu'on voyait bien qu'on était un changement de paradigme. La question, c'est est-ce qu'on l'accompagne, et est-ce qu'on l'accompagne en tentant d'être innovant et en tentant justement d'être en quelque sorte à la pointe de cette innovation pour pouvoir ouvrir le chemin pour les autres pays, puisqu'a fait la France avec l'exception culturelle, avec le système de financement de la culture qui a été mis en place aux années longues. C'était ça, c'était quelque chose qui était, au lieu de voir la télévision comme un ennemi pour le cinéma, on en faisait un allié. Bah là, on aurait pu faire la même chose avec Internet, parce qu'il y a des sommes d'argent très importantes à débloquer pour la culture, qui sont là, et ces acteurs sont prêts à contribuer, parce qu'ils peuvent y gagner si on trouve des solutions innovantes. Et elles existent. Donc sur ce dernier point, évidemment, l'idée c'est préserver, c'est voir comment préserver. Et je suis convaincu que si on reste sur une posture conservatrice qui est de mettre des digues, des barrages contre le Pacifique en attendant que ça passe et en attendant qu'on change les comportements parce qu'on croit encore qu'Adopi ou que son substitut va changer le comportement et que en créant une amende qui sera plus facilement automatisable,
qui sera de 60 euros, hein, on précise,
voilà, parce qu'elle sera beaucoup plus légère et que donc on pourra avoir une approche radar un peu automatique, on croit que ça va induire des changements de comportement. On croit encore qu'on a la capacité de transformer des comportements qui sont ancrés dans le quotidien de toute une génération et maintenant de plusieurs générations depuis 10 ans, des millions de personnes, du jour au lendemain, avec une approche purement répressive, même si c'est une répression light. Je ne suis pas en train de crier au loup, etc. Donc voilà. Donc sur ce dernier point, je pense que vraiment, on n'est vraiment pas du tout. Je pense que justement, le danger est plutôt du côté de ceux qui prônent un attentisme absolu. Parce que franchement, je ne vois pas comment on va tenir sur le moyen terme.
Je vous propose d'écouter, Juan Brocco, oui, la réaction d'Aurélie Filippetti, oui, sur cette question, voilà, de la nouvelle formule d'Adopi, de la réaction que cela peut inspirer aux producteurs de musique.
Je ne suis pas inquiète sur la réaction des professionnels. Je vais les recevoir cet après-midi et ils seront évidemment associés à la mise en place des mesures qui suivront le rapport Lescure. On ne supprime pas tout mécanisme de sanction. Au contraire, on réoriente la lutte contre le piratage vers les sites qui tirent de l'argent de ce piratage, c'est-à-dire vers des sites qui sont quasiment mafieux. On avait vu l'exemple de Mega Upload et qui aujourd'hui en France ne sont pas suffisamment poursuivis. Donc c'est eux que l'on veut abattre, et au lieu de ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire une stigmatisation uniquement des internautes qui pratiquent le peer-to-peer. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité, elle est clairement sur les sites qui font de l'argent sur le dos des créateurs.
Alors, Juan Brocco, cette refonte d'Adopi ne vous convient pas. Le SNEP a dénoncé, lui, le fait que les solutions proposées ne sont pas à la hauteur des enjeux et bien loin des attentes des producteurs de musique. Et vous, pour des raisons bien sûr contraires, vous n'êtes pas du tout d'accord également avec ce qui est pourtant qualifié de suppression d'Adopi.
Mais on reste le cul entre deux chaises, et vraiment c'est ce que je vous disais au début, c'est une réforme purement esthétique qui ne change rien. Encore une fois, on reste sur un paradigme qui devrait évoluer et qui va évoluer. Et moi, de toute façon, je suis convaincu qu'à terme et même à plutôt court terme, on va se diriger vers un système de licence globale, mais qui sera privé. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de créer des financements, d'organiser une solution qui soit régulée par l'État. Or, ce vers quoi on va, c'est une émergence d'acteurs par abonnement, qui offriront des offres par abonnement, pardon, illimitées de type Netflix ou dans la musique, il y en a énormément, de Deezer, etc. Et on confie aux acteurs privés, et moi, évidemment, je ne suis pas pour une étatisation de la culture, ce qui est peut-être moins intéressant, c'est de confier à des intermédiaires privés juste de commercialisation cette solution, alors qu'on aurait pu créer une solution qui rapporte beaucoup plus d'argent, parce qu'elle aurait complètement, elle n'aurait pas souffert de la concurrence du piratage comme le souffrent les solutions privées. Elle aurait permis, parce qu'elle aurait concerné l'ensemble de la population et qu'elle aurait concerné les abonnements en Internet, donc de ne pas avoir à taxer les majors, etc., ce qui est une utopie, on n'y arrivera jamais, alors que là on avait une base territoriale qui permettait de le faire et qui aurait donc permis de rapporter 6 à 7 fois plus d'argent. Alors évidemment, il aurait fallu après réfléchir sur la répartition, etc., mais il y a des clés de répartition qui existent déjà, qui sont existantes et qui auraient permis de rapporter beaucoup plus d'argent sur une base proportionnelle au nombre de téléchargements qu'on aurait pu moduler pour justement rester fidèle à l'esprit de l'exception culturelle, pour pouvoir aider, créer des aides aux produits les plus fragiles, aux œuvres les plus fragiles, aux producteurs les plus fragiles,
en un mot, ça me semble bien soviétique.
Yves Rizel,
ça me semble bien soviétique, excusez-moi, ça me semble bien soviétique votre truc.
Mais en quoi c'est soviétique, vu que c'est proportionnel au téléchargement, c'est-à-dire que ça suit les téléchargements, la consommation des utilisateurs. C'est juste que le système de répartition, c'est exactement le même système que la gestion collective, donc c'est absolument pas soviétique, sinon la SACD aussi est soviétique. La question c'est comment est-ce qu'on répartit? Si 100%, évidemment, si l'État décide de qui répartit à quoi, mais là c'est absolument pas le cas, c'est proportionnel à la consommation des utilisateurs, qui peut être mesuré de façon très simple, des outils où existent.
Oui, excusez-moi, oui.
Julien Cadeau.
Ce que je trouve assez intéressant dans toutes les interventions qui ont été faites à l'instant, c'est que vous notez que les gens sont prêts à dépenser de l'argent. Et oui, ils sont prêts à mettre de l'argent dans une offre légale, parce que c'est ce que Mme Filippetti disait, c'est que son deuxième volet donc, d'action va s'orienter sur une action qui déporte l'argent en fait, de l'illégalité donc, de ces entreprises qu'elle appelle mafieuses vers une offre légale qui serait donc, un nouveau support pour la création. Mais alors, quel est-il ? Là, je pose vraiment la question.
Sauf qu'il y a 10 fois moins d'argent aujourd'hui dans ces plateformes, qu'elles soient légales et illégales, de ce qu'on pourrait retenir avec une taxation des abonnements Internet légère de 4 à 5 euros, quelque chose que le rapport Lescure d'ailleurs n'a pas compris, mais passons, c'est du détail, et qu'on ne peut pas déporter de l'argent de plateformes qui sont dans les îles Caïmans, ce n'est pas de la contribution directe. Les utilisateurs aujourd'hui ne payent pas pour avoir accès à ces... ils se financent par la publicité. Donc, ce n'est pas une dépense directe.
De plus en plus, c'est payé.
Oui, il y a quelques systèmes d'abonnement, mais très largement, que ce soit dans le peer-to-peer ou dans le streaming illégal, on reste dans un système où vous financez en fait leurs frais de fonctionnement de ces plateformes illégales en acceptant de subir de la publicité, etc. Et c'est des sommes qui sont misérables par rapport aux besoins de l'industrie culturelle du déplacement de valeur qu'il y a eu depuis qu'il y a un effort.
Vous pensez que les gens qui sont prêts à payer pour une offre légale de qualité ne sont pas assez suffisants pour financer l'industrie.
On voit très bien ce qui se passe dans la presse, par exemple. C'est qu'il y a un journal aujourd'hui qui, après 6 ans d'existence, a finalement réussi à arriver à l'équilibre, voire à dégager des très, très, très légers bénéfices, c'est Mediapart. Toutes les autres offres dans la presse perdent de l'argent et n'arrivent pas à trouver un modèle économique rentable. Qu'est-ce qui se passe ? Et ce qui est encore pire, c'est que même Mediapart, par exemple, c'est un succès évidemment comme modèle, mais imaginez-vous si tout se limite et on se retrouve avec 6-7, le portefeuille des consommateurs est limité, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être abonnés à 7 offres qui coûtent 10 euros par mois, plus une offre d'abonnement pour la vidéo, plus une offre d'abonnement à la musique. Ce qui peut marcher sur un ou deux ne peut pas s'étendre, ne peut pas généraliser. Donc,
justement, c'est la raison pour laquelle, justement, si vous voulez, je suis abonné à Mediapart, ou je ne sais pas combien, je paye 12 euros par mois, et cet argent va à Mediapart. Et donc Mediapart, en tant que producteur, le producteur que vous avez l'air, et le rapport Lescure, dans certains cas, a l'air de haïr, et que, évidemment, l'Adami haït, et que, etc. Le producteur Mediapart reçoit son argent, et en tant que client, j'ai décidé de financer, enfin, d'utiliser ce service qui me convient, et que je paye avec un consentement à payer, de même que si je vais chez un fabricant de chaussures à 327 euros, je décide, et donc ça permet de lui acheter ses chaussures, et ça lui permet à lui de savoir qu'il a 2700 clients et qu'il va pouvoir fonder un modèle économique là-dessus. Voilà la raison pour laquelle la perception collective et la gestion globale, je n'en veux pas. Parce que je pense que dans la culture, tout comme dans les chaussures de luxe ou de demi-luxe ou de moyen luxe, vous avez besoin de créer des économies qui sont adaptées aux produits que vous vendez. S'il y a 3500 acheteur pour un disque de musique de jazz ou de musique classique, il n'y a pas à sortir de là. Ça va bien être ces 3500 acheteurs potentiels qui vont financer ce produit.
Et ça sera 3500 personnes qui le téléchargeront et qui permettront, et donc dont le téléchargement permettra une rétribution à la hauteur du nombre de téléchargements. On est sur le même système, on n'est absolument pas sur un système où on va distribuer des dividendes dans le cadre d'une gestion collective ou a fortiori d'une licence globale.
Demandez aux plus petits artistes de certaines sociétés de perception collective s'ils ont l'impression d'être bien traités.
Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de fonds disponibles, c'est bien, et en particulier en ce qui concerne justement sur Internet. Pourquoi ? Parce que ces modèles économiques ne sont pas viables. C'est ce que je disais sur la VOD, sur le cinéma aujourd'hui. Les plateformes de VOD stagnent. On leur promettait une croissance de 50% dans l'année 2013.
Lescure le dit quand même, elles sont extraordinairement déprimantes. Il n'y a vraiment rien.
On n'a rien à la fois. On a une croissance qui stagne. Évidemment, on a un revenu pour les artistes, mais même aussi pour les producteurs, les ayants droit, etc., qui est nul, donc qui est extrêmement réduit. Donc la question, il faut s'interroger sur la pertinence de ce modèle. Et moi, je pense qu'on peut passer par une solution alternative qui est de, par l'intermédiaire d'une licence globale qui permettrait de débloquer quand même 1,2 milliard d'euros. Alors, vous savez ce que fait le rapport Lescure pour décrédibiliser cette
opportunité, on rappelle que Pierre Lescure a chiffré, effectivement, ils n'ont pas contourné la question, mais effectivement, ils l'ont chiffré, et donc Ils ont annoncé que c'était pas du coup une solution du tout viable. Hein.
Oui, pourquoi ? Alors, mais moi j'ai lu le rapport et je vous dis pourquoi en deux mots. Ils disent que ça rapportera 1,2 milliard d'euros et que ça équivaut en gros au chiffre d'affaires de la musique plus quelque chose de plus et que donc du coup c'est complètement inviable parce qu'il faudrait avec financer le cinéma, etc. Sauf que c'est absurde de comparer 1,2 milliard d'euros qui sont en fait des bénéfices nets, c'est de l'argent frais à redistribuer, à un chiffre d'affaires dont le bénéfice justement est bien plus réduit de 10 à 50 fois. Donc on n'est pas du tout, on est vraiment sur une tentative d'écarter quelque chose qui de façon un peu fallacieuse. Et ça aussi c'est un peu embêtant, c'est-à-dire que Lescure essaie de montrer beaucoup de signes d'ouverture et de réflexion sur le moyen terme, mais après il se refuse en fait à l'envisager comme possible dès le départ, et donc il va essayer de contourner en trouvant des arguments qui sont pas bons, et du coup ça empêche d'avoir une discussion sérieuse. Et moi je pense que là-dessus, vraiment, on verra. De tout fait, encore une fois, c'est ce que je disais, moi je crois que peut-être que la fenêtre est passée, là on a choisi une autre voie, et on va voir les grosses plateformes américaines qui vont arriver avec leur offre d'abonnement illimitée pour quelques euros par mois, qui vont redistribuer peanuts, qui vont mettre en avant les grosses œuvres commerciales sans aucun intérêt pour la diversité culturelle, sur lesquelles on n'aura aucune prise, qui seront installées au Luxembourg et qui vont imposer leur modèle de licence globale privée. Parce que le net, en fait, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental pour les comportements sur Internet, qui est qu'on ne veut pas payer à l'acte. On est prêt à payer un abonnement. Qui sera en fait qu'on ne sentira pas passer en quelque sorte par prélèvement, etc., de
vous
quelques euros par mois.
Ça ne peut pas protéger la création.
Merci Yves.
La création fragile.
Grisel.
Juste un dernier mot. C'est les cartes UGC illimitées qui ont sauvé le cinéma français ces 10 dernières années. Et ça, c'est un modèle d'illimité. Donc il faut s'interroger sur est-ce que ça dévalorise vraiment la culture.
Oui, mais la production, est malheureux de ce système. Vous avez vu le mécanisme pour favoriser, et c'est sur ça qu'il faut travailler, effectivement. Il y a un mécanisme qui favorise la production,
Mais bien sûr.
D'accord.
Mais c'est le but. Mais le but, c'est pas de dépénaliser le piratage et d'en rester là. C'est de créer un modèle attaque.
Indépendamment de Grisel. Merci, merci Juan Branco. Merci Grisel. On a bien senti que les positions étaient fermes. Merci Juan d'être intervenu dans Univox depuis le Festival de Cannes. Et on va faire une petite pause musicale avec un titre directement téléchargé depuis la plateforme Qobuz. Et ça nous enverra du coup vers la discussion suivante juste après ça.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Get Lucky, Daft Punk sur Radio Campus, directement téléchargé depuis le site Qobuz, dont Yves Rizel, le président, est avec nous aujourd'hui, et en qualité studio master. Yves, alors est-ce que vous avez entendu la différence ?
Ah bah là, sur votre matériel pourri, bien sûr que je ne peux pas l'entendre, en plus on causait pendant que ça passait, mais je vous assure qu'à la maison, oui, on entend très très bien la différence. Ce qui est intéressant, c'est que donc, l'album sort lundi, et qu'en exclusivité mondiale, Qobuz le vend, donc en qualité 24 bits, 88 kHz.
Alors qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour profiter de ça ?
Il vous faut au minimum un petit DAC qui vous pouvez l'avoir pour 100 ou 200 euros, et puis votre vieille chaîne, et déjà vous entendez la différence.
Déjà.
Voilà, déjà, vous prenez votre pour vraiment à l'économie un DAC correct, donc 200 euros. Il y en a plus cher, mais vous branchez avec un bon câble, allez, 49 euros pour le câble sur votre chaîne avec votre portable. Déjà là, vous entendez la différence. Surtout, ce qu'il y a, c'est que quand vous achetez un tel produit,
vous l'avez pour toujours. Donc ensuite, si vous avez besoin de le mettre en MP3 dans votre baladeur parce que vous ne voulez pas que ça prenne trop de place, etc., puisque vous êtes dans le train, de toute façon, les enfants hurlent et donc on n'entend rien, bah vous pouvez le faire. Mais au moins, vous ne faites pas flanquer pour 9,99 un MP3 qui, de toute façon, restera toute sa vie un MP3. Et donc là, on le sort demain, l'album, avec bien entendu le livret numérique, etc., en 24 bits 88.2, au prix de iTunes qui vend du 256 compressé atroce.
Alors voilà, c'est la, c'est la réponse, c'est une des réponses hein, que vous proposez justement à cette question du piratage, c'est le nivellement par le haut, c'est-à-dire la haute qualité. On va écouter tout de suite un micro-trottoir réalisé par notre radio grenobloise sur les pratiques d'écoute des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui.
Comment est-ce que vous écoutez la musique ?
Je télécharge.
Surtout en la jouant. Et puis, la plupart du temps, bah, sur YouTube, c'est encore un moyen facile de découvrir des nouvelles choses.
J'écoute plutôt la musique que j'ai sur mon ordi. C'est plutôt des gens qui me l'ont passé, en fait. C'est pas moi qui l'ai téléchargé.
En fait, je suis abonnée à Deezer, du coup, bah, je Deezer, sinon sur YouTube, quoi.
La radio, c'est Deezer, YouTube.
La dernière fois que vous avez acheté un CD ?
Un CD, je sais pas, je dirais il y a 5 ans, 5-6 ans.
Ouh là là, il y a plus d'un an, hein, ça, c'est... C'est clair que ça remonte en tout cas. Non, non, si j'en achète, c'est pour les mamies plutôt.
Ça va faire 2 ans, je pense.
J'aime bien collectionner les originaux. Ouais. Les groupes que je suis, comme Iron Maiden ou Metallica, à chaque fois qu'il y a un truc qui sort.
Il y a 3-4 mois.
Pourquoi est-ce que vous préférez télécharger votre musique sur Internet ?
C'est plus simple, on l'a tout de suite, on n'a pas besoin de se déplacer. Et puis on teste et si ça nous plaît, on télécharge.
Donc entre le CD et Internet, c'est sans appel, c'est
Internet.
C'est Internet. Ah oui, c'est sûr.
Internet, parce que je peux retrouver les CD que j'ai déjà. Internet pour une nouvelle musique.
Alors je vous vois sourire, hein, Yves Rizel, à l'écoute de ce micro-trottoir réalisé par notre radio grenobloise, Radio Campus Grenoble. Ils sont très bien ces petits jeunes.
Notez que votre journaliste n'a pas demandé si quand il téléchargeait, il parlait de téléchargement légal ou illégal.
Ah.
Parce que quand
forcément légal.
Forcément légal, vous pensez ?
Ouais. En fait, je voulais revenir sur quelque chose qui avait été dit avant, donc le nivellement par le haut. Oui, certes, c'est quelque chose que vous proposez avec Qobuz, mais c'est quelque chose qui n'existe pas dans le reste de l'industrie. Donc la vidéo, les livres, par exemple, on n'a pas un nivellement par le haut, on n'a pas une offre qui permettrait d'avoir... l'équivalent de ce que vous proposez, c'est-à-dire un master, enfin on va pas appeler ça un master, mais on va appeler ce qu'on appelle à mettre à disposition des utilisateurs, c'est-à-dire un fichier qui serait à la fois en version française et en version originale, un fichier qui serait sous-titré et un fichier qui pourrait être lu dans les deux normes HD qui sont les plus répandues, c'est-à-dire le 720p et le 1080p. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la vidéo et que l'offre illégale nous permet tout à fait de nous procurer parfois largement avant la sortie en DVD. Et alors
d'abord, c'est pas moi qui parlais de nivellement par le haut, c'est notre ami qui nous a invités.
C'est vrai,
moi,
mais ce que vous avez fait en faisant. Fait,
mais c'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites avec Qobuz.
Voilà. En faisant Qobuz, c'est quoi ? C'est du militantisme pour permettre aux gens, quand on leur vend quelque chose, parce que c'est difficile, en effet, de convertir les gens aux plateformes payantes et légales. Et donc, on dit que pour les convertir, eh ben, il faut qu'on leur fasse un effet waouh. Donc, on essaye, depuis le début, hein, depuis 5 ans, 6 ans, on se bat mais comme des chiffonniers avec les producteurs pour qu'ils nous donnent le meilleur matos possible. Alors là, on est en train de toucher Nirvana, là, parce qu'on s'aperçoit maintenant, ce qui est génial, c'est qu'au début, on l'a obtenu en classique, en jazz. Et puis alors maintenant, on voit que sur la musique électronique, etc., on l'obtient. C'est ça la grande nouveauté. Et vous savez, on a fait une énorme précommande, on a la plus grosse précommande du site depuis sa création, là, qu'on livre lundi, avec Daft Punk.
Ça sert à quoi de précommander en numérique, Yves Rizel, parce qu'il n'y a pas de problème de stock ? Enfin, c'est quoi le...
C'est parce qu'on a, en l'occurrence, pour se défendre, on a fait une offre donc prix qui est très agressive.
À 9,99€.
Voilà, donc on l'aura en même temps que les autres, disponible en même temps que les autres, mais en meilleure qualité.
Donc il sera plus cher après lundi, c'est ça ?
Généralement, on vend le 24 bits. Le 24 bits, c'est pas pour. Je veux dire, ça peut pas forcément intéresser tout le monde. Hein. Nous, enfin, franchement, c'est ça que je voulais dire. C'est le premier but de Qobuz, c'était de dire voilà, vous avez pendant 30 ans écouté des CD, vous aviez une certaine qualité. Bon. On ne comprend pas pourquoi on vous livrerait autre chose qu'au moins cette qualité. C'est aussi bête que ça. Donc vous voyez, c'est pas de l'élitisme. c'est pas le nivellement par le haut, c'est simplement pas se foutre de la gueule du monde, vous comprenez?
Bien sûr, bah, c'est ce que fait un peu l'industrie de la vidéo. Enfin, alors, du coup, elle se fout de la gueule du monde.
Ah ben, tout à fait, mais c'est pour ça que les offres de vidéos, on me demande, je suis, en tant qu'utilisateur, je suis d'accord, mais mille fois d'accord, sont très arriérées. Et le livre, le e-book, pareil, très arriéré. Et on peut dire qu'en musique, même si je suis critique, si vous voulez, à certains égards, et j'essaye de faire une plateforme qui vraiment est en avant-garde de ce point de vue-là, et on se bat pour ça.
Merci beaucoup, Yves Rizel. Désolé de vous couper, c'est la fin de cette émission. C'était Univox pour le réseau Radio Campus France. Yves Rizel, vous étiez donc notre invité, président de Cobuzz et d'Abeille Musique. Nous avons reçu Juan Branco, ancien collaborateur de campagne d'Aurélie Filippetti. Cette émission était en partenariat avec Rajmag, qui était représenté ici par son rédac-chef adjoint Nouvelle Technologie, Julien Cadeau. Pour le réseau Radio Campus, c'était Ghislain Chantepie et Thibaut Delavigne. Merci à tous et à toutes, et on se retrouve très très bientôt sur le réseau Campus France. Salut.